Alors, je suis Mylène, je suis née à Paris et je viens du Val d'Oise.
Tu fais quoi dans la vie?
Alors, je suis pigiste pour la presse musicale, on va dire, plus orientée jazz et éventuellement de temps en temps tout ce qui est lié à la culture hip-hop. Et puis, je fais de la radio en bénévole à Radio Campus Paris depuis 7-8 ans déjà. C'est une radio associative qui est basée donc à Paris et qui à la base est pour les étudiants. Donc j'avais commencé là-bas en tant qu'étudiante et je ne suis pas encore partie. Et c'est vraiment, j'aime beaucoup en fait ce média, donc du coup j'ai du mal à quitter le cadre quoi, qui est en plus super, l'équipe est vraiment super.
Et tu fais aussi là-bas des chroniques sur la musique?
Alors oui, c'est la même, oui, effectivement. Donc je fais vraiment des émissions même, musicales. En ce moment, c'est une émission sur l'histoire des musiques noires. Et j'ai commencé à Radio Campus Paris en faisant des petites chroniques et des émissions plus rédactionnelles. Et là-bas, ils m'ont tout appris, la prise de son, faire des interviews, les enrober, la réalisation technique, ils m'ont vraiment tout appris. Et c'est vrai que maintenant, je suis assez autonome sur les différents formats. Mais je préfère quand même la partie émission musicale. Parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne et dont j'aime parler, quoi.
Ça a été quoi ton parcours pour en arriver là?
J'ai fait un bac littéraire. Ensuite, je me suis orientée vers la fac en histoire, parce que je suis passionnée d'histoire. Donc j'ai fait ma fac d'histoire jusqu'au master. Et après mes études, vu que j'étais aussi en parallèle à Radio Campus Paris, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas tenter, je voulais être journaliste de base. Pourquoi pas tenter de chercher un poste en fait dans ce milieu, puisque j'ai les compétences, j'avais pas le diplôme certifié, mais j'avais mon master d'histoire et cette expérience associative. Donc j'ai été embauchée en tant que journaliste reporter dans une radio locale dans les Yvelines. Ensuite j'ai continué en tant que pigiste et correspondante de presse, on dit, pour un journal local du Val d'Oise. Et ensuite j'ai arrêté, parce que j'en avais assez, je me suis tournée vers l'enseignement. Et c'est là que j'ai en fait je suis devenue professeure d'histoire pendant 2 ans. Voilà.
Et puis après, t'as arrêté.
Après, ouais, en fait, en parallèlement, j'ai toujours continué à avoir un pied dans tout ce qui était l'écriture de chroniques musicales, etc. Donc j'avais continué ça et donc du coup j'ai poursuivi et puis là j'ai rattrapé le cheval en route, comme on dit, pour continuer en fait à faire des chroniques et des piges dans le milieu musical.
En ce moment, t'habites où? Est-ce que t'habites seule, en colocation, en famille?
Alors je suis avec mon conjoint, on est dans le Val d'Oise donc, un département qu'on adore. Lui il a grandi ici, moi j'y suis arrivée il y a 7-8 ans, oui c'est ça. Et ouais, c'est un département que j'adore. C'est vraiment, je sais pas, j'ai du mal avec Paris parce que j'ai beaucoup habité sur Paris. J'ai de plus en plus de mal avec Paris, le rythme de la ville, les gens, etc. Et du coup, je suis plus à l'aise ici, le fait que, je sais pas, c'est assez magnifique puisque pendant longtemps on a habité Pontoise et t'es dans pleine ville et puis tout d'un coup tu te retrouves au bord de l'Oise. Tous les bords de l'Oise entre Cergy et Pontoise, c'est magnifique aussi. Tu peux faire. Enfin, c'est vraiment plus apaisant que le rythme stressant de Paris, je trouve.
Au niveau de notre génération, ça a été quoi tes références culturelles au niveau artistes, films, dessins animés, musique, etc.?
C'est difficile. De l'enfance, déjà dessin animé, je dirais tout ce qui est bah, les Walt Disney, je crois qu'on y est. À l'époque, on n'avait pas tous les films d'animation, tout ça. Donc tous les Walt Disney. Maintenant, quand je les regarde avec du recul, je me dis, ah tiens, c'était pas terrible ce qu'il disait là. Il y a des choses très, très, oui, discriminant finalement dans beaucoup, beaucoup de Walt Disney. Mais évidemment, c'est ce qu'on regardait beaucoup à l'époque. En film, j'avoue que là, c'est un peu plus compliqué. Je faudrait peut-être qu'au niveau de l'enfance, c'est plus compliqué. Je remonterais peut-être plus à l'adolescence. Et là. Donc il y avait Titanic qui m'avait à l'époque bouleversée, mais pareil avec le recul quand je le regarde, je me dis mais comment j'ai pu aimer ce film? Et étonnamment, je dirais Street Dancer, je sais pas si tu connais.
Oui, moi aussi, c'est une référence.
Ah, je l'ai acheté, du coup je l'ai acheté en DVD, ça a été mon premier DVD. Et je l'ai regardé, j'étais fan de toutes les scènes de danse, tous les. Puis bon, il y avait les B2K qui étaient pas non plus dingue dingue en musique, mais qui étaient pas mal en danse et en. Ouais. Et donc j'étais fan de ce film, je l'ai regardé, re-regardé, re-regardé. Il y a des films évidemment beaucoup moins. Après d'ailleurs, quand on regarde le film, je sais pas si t'as vu, on voit qu'il y a plusieurs scènes qui se répètent au final de public.
C'est vrai, ah, je l'ai
Ouais.
pas regardé. Ah, ok,
J'ai
je le regarde.
re-regardé, ouais, quand à force de le regarder.
Mmh.
Et je sais pas, je réfléchis. Il y a les films de Spike Lee. Ouais. Mais ça, j'ai découvert beaucoup plus tard au final.
Mmh.
Vers mes 18, 19,
Ouais.
donc. Ouais.
Et au niveau musique?
Alors, au niveau musique, bon, il y a eu la période boys band quand j'avais 7-8 ans, évidemment, et girls band.
Ouais.
Space Girls, To Be Free, tout ça, c'était. C'est. Voilà, hein, puisque avec les copines et les copains aussi, on aimait beaucoup. C'est complètement con, puis les paroles et tout, c'est.
Grave.
Mais c'était voilà, c'était entraînant, c'était un groupe de mecs, un groupe de meufs qui. C'était un peu la mode à l'époque. Et après, je dirais que. En référence musicale, c'est plus lié à mes parents, qui écoutaient donc. Mon père est fan de musique, donc il écoutait beaucoup de musique antillaise. Donc évidemment, beaucoup, beaucoup de. Les Cassav, les Malavoy, les. Tout ça, c'était. Voilà, donc c'est des choses que j'écoutais, que j'aimais en plus. En grandissant, je me suis plus orientée vers le raga et le hip-hop, donc raga dancehall. J'avais un artiste phare, c'est Admiralty, que j'aime beaucoup, et en hip-hop, je dirais le Science Upa Crew avec l'album KLR. Ça a été vraiment. Il y avait le Angela qui a fait un carton, mais tout l'album est vraiment le raz-de-marée, tout ça. Voilà, c'est deux références que je retiens, retiendrai le plus de cette période.
Fan, archi
Ah
fan de Sayan.
ouais,
Ouais.
quand tu réécoutes même KLR, tu dis ah ouais, ils étaient vraiment, vraiment forts.
Mais ouais, en plus ça vieillit pas.
Ça,
Genre ça
ouais,
pourrait sortir aujourd'hui,
c'est
quoi.
ça, ils sont vraiment. Ils ont apporté quelque chose, la cohésion de groupe. Chacun a sa personnalité, mais ils arrivent tous à se raccrocher les uns les autres. Les petites interludes assez drôles, moi j'adore.
Selon toi, c'est qui les héros de notre génération?
Moi je dirais toutes les personnes. Oh, c'est pas évident, attends. J'ai des héros qui me viennent là, mais c'est pas forcément quand j'étais enfant ou adolescente. Peut-être que moi j'ai eu une mention spéciale pour Barack Obama, je crois.
Ouais.
Ça a été un symbole quand il a été élu, c'est quelque chose de vraiment fort, même si après on se rend compte. Que finalement il n'a rien pu faire parce que le système politique américain est assez compliqué. La preuve avec Trump aujourd'hui, c'est aussi compliqué de le virer. Mais ouais, je crois que ça a été un espoir en fait. Voilà, symboliquement, c'était vraiment quelque chose de. En plus de ça d'ailleurs, la réélection d'Obama, c'est. Je commençais à faire de la radio avec Radio Campus. J'étais envoyée dans un événement spécial entre jeunes des soutiens démocrates en France qui suivaient les résultats. Et donc c'était assez intéressant. Donc je commençais la radio avec Dania d'ailleurs. C'est là qu'on s'est rencontrés. Et c'est vrai que la réélection, c'était quelque chose aussi de symbolique. Mais après, j'ai une personnalité que j'aime beaucoup, c'est Christiane Taubira. C'est plus parce que voilà, je pense qu'elle dégage quelque chose, un aura qui est assez magnifique. Elle a une aisance quand elle parle. Elle remet les gens vite à leur place, comme il faut, sans haine, avec beaucoup de justesse. Ouais. Et je dirais pas. Bah après, ça n'a pas été facile pour elle quand elle a défendu la loi pour le mariage homosexuel. Mais ouais, je dirais. Ouais, un héros politique, ce serait elle, ouais,
Ouais,
vraiment.
carrément. Bah moi c'est pareil. En plus quand elle parle, t'es antillaise,
Oui.
quand elle parle, t'as pas trop l'impression que c'est une tante qui te parle et
Oui,
que t'as pas envie de la
c'est ça,
contredire
ici,
ou
elle
quoi.
est. Quand tu vois, elle se tient bien droite, elle est
Ouais.
vraiment.
Elle est classe et tout.
Ouais.
Ouais.
Et pour avoir un vocabulaire comme elle a, faut quand même avoir un sacré bagage culturel, donc je
Ouais, c'est
pense
clair.
que.
Mais t'as vu, elle lit la nuit, je crois, elle lit un livre par jour. Enfin, je
Je
sais
sais
pas, elle
pas,
lit
mais elle est.
énormément et elle arrive à te ressortir des pages de livres de mémoire, quoi.
Ouais.
C'est un truc de fou. Ouais,
Elle est.
bravo
Moi, elle
Christiane.
m'impressionne, ouais. Elle m'impressionne
C'est
vraiment.
clair. C'était quoi tes rêves d'enfant?
Très petite, je voulais être vétérinaire. Après, je voulais être pompier. Après, je voulais être médecin. Enfin, ouais, je suis passée par toutes les. Et je crois qu'il y a beaucoup cette notion de d'aider aider les autres. Et du coup, j'étais vraiment, je dis plus tard, de toute façon, je voulais vraiment être vétérinaire quand j'étais petite. Après, j'ai fait non, en fait, je vais être architecte. Enfin bref, je suis passée par plein de phases. C'est vraiment dans l'optique d'aider les autres et de pas être, parce que j'étais un peu, j'étais souvent, j'ai grandi en étant choquée par les inégalités et par les discriminations. Donc je dirais que c'est ça, ouais. Mes rêves d'enfant, c'était pouvoir aider les autres.
Et t'avais des craintes?
Enfant, non, je pense qu'on n'a pas de crainte. On est un peu dans l'insouciance, on est beaucoup dans l'insouciance. Les craintes, elles viennent quand on grandit, je pense. Quand on commence à avoir plus de responsabilités. Là, c'est vraiment. Là, on se dit, ah oui, donc là, on n'y pensait pas petit, mais en fait, là, il va falloir y penser. Comment on va gagner, qu'est-ce qu'on va gagner, quel va être notre salaire, est-ce qu'on va pouvoir survivre, des trucs comme ça, voilà. Qui sont, en plus, ont encore plus d'écho avec l'actualité en ce moment, mais c'est vrai que c'est plus les craintes, elles viennent après.
C'est quoi pour toi être adulte et à partir de quand on devient?
Je me demande si c'est pas finalement, je sais pas si on devient vraiment adulte au final. Parce qu'on ne devient pas des grands enfants. C'est un peu bidon comme réponse, mais je pense que c'est un peu ça, parce que finalement, être adulte, est-ce que c'est pas, je vais partir dans un délire philosophique, est-ce que c'est pas finalement être, c'est pas la société qui dit, bon, bah, à partir de ce moment-là, à tel âge, t'as fini tel diplôme, tu dois faire tel métier pour pouvoir avoir tel salaire, pour avoir tel, enfin, est-ce que c'est pas finalement la société qui nous met dans des cases, maintenant vous êtes adulte, est-ce que, je sais pas, est-ce que c'est pas lié finalement à une pression de la société, avec des responsabilités qu'on t'impose, contrairement à ce que toi t'aimerais au fond de toi au final. C'est ça, donc être adulte, je sais pas du coup ce que c'est qu'être adulte au final. Je dirais, parce qu'il y a des enfants qui ont autant de répartie que certaines grandes personnes et d'autres au contraire des adultes qui n'ont pas de. Et encore, j'ai utilisé le mot adulte. Mais c'est un peu compliqué comme. Ouais, c'est
Ouais,
un peu
c'est difficile
compliqué.
de définir la limite.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Et du coup, toi, tu te considères comment? Est-ce que tu te considères adulte, grand enfant?
Alors j'imagine que ma famille me considère comme une adulte du fait peut-être de mon parcours ou de ma situation, etc. Mais c'est vrai que moi je crois que je suis une grande enfant. Parce qu'autant je peux être très très sérieuse et autant je peux, je sais pas, je me prends pas au sérieux non plus en dehors de la sphère professionnelle, j'évite. Parce que c'est ennuyeux en fait, je trouve ça ennuyeux. De toujours être, oui, il faut que tu te comportes en adulte, il faut que tu. Donc non, je crois que je suis une grande enfant toujours.
Est-ce que tu as eu une crise d'adolescence?
Je crois pas, franchement non. Si, alors, si on définit la crise d'adolescence comme quelque chose où on est un rebelle, où on a assez de ses parents, des adultes. non, je dirais que non, non. Ça a pas. J'ai pas de souvenir de cette période-là, vraiment.
Comment tu vis le fait d'avoir 30 ans et de vieillir de manière générale?
Alors c'est vrai, c'est drôle parce que du coup, avoir 30 ans, c'est encore lié, c'est encore une fois, c'est lié. Ça va revenir beaucoup, mais finalement, on nous dit, voilà, maintenant t'as 30 ans. Ou même avant, voilà, t'as 20 ans, maintenant, voilà, t'as ton bac, il faut faire ça. J'ai l'impression que c'est plus les on-dit qui définissent notre âge. Et c'est assez drôle parce que quand je suis allée, j'ai eu l'occasion d'aller au Sénégal, et c'est quelque chose qui se demande pas, l'âge des gens, tout simplement. Et on te juge pas par rapport à l'âge que tu as. Alors qu'en France, ah, il a 30 ans, ah, elle a 30 ans, elle a fait ça, ah, c'est bien, ah, 30 ans, elle a pas encore fait ça, ouh là là, ça va pas. Et c'est quelque chose qui a pas selon les zones géographiques du monde. Et je pense que c'est plus lié à notre culture occidentale. Voilà, même aujourd'hui, c'est assez symbolique hein, qu'on s'arrête sur l'âge du président de la République. Ça montre aussi un petit peu où on en est, quoi. Voilà.
Ouais, c'est marrant ce que tu dis parce que tu vois ici par exemple, ou même ce que je vis entre le Canada et ici, quand donc je parais jeune, tu vois, et des fois quand j'ai des contrats avec des gens, donc ils me parlent un petit peu voilà, comme la petite jeune, et puis quand je dis que j'ai 30 ans, tout de suite il y a un changement de quelque chose.
Ouais.
Alors qu'effectivement, au Sénégal, au Rwanda, dans d'autres endroits, Des fois, tu vois des petits de 11 ans qui sont musiciens, des petits de 15 ans qui font déjà de la vidéo et tout, et ils sont
Ouais,
pris au sérieux de la même
c'est ça.
manière que quelqu'un de plus âgé, quoi. Donc,
Ouais,
ouais, c'est vrai que c'est.
il y a un décalage, hein, vraiment.
Alors, est-ce que tu penses que c'était mieux avant? Genre la génération de nos parents.
Ouais. Ah, la génération de nos parents.
Ouais.
Quand il m'en parle, je dirais, ah oui, effectivement, c'était mieux. Il y avait peut-être plus de respect, plus de considération de l'autre. J'en discute beaucoup avec ma mère. Il y a ce sentiment aussi, après c'est peut-être lié à la région parisienne et à Paris plus particulièrement, de plus en plus d'individualisme dans le comportement des gens, que ce soit même quand tu marches dans la rue, que le trottoir appartient à la personne, comme on dit aux Antilles, et que toi tu puisses pas passer. J'ai peut-être ce sentiment-là. Évidemment, moi, c'est une perception du coup de mes parents, mais pas la mienne, donc je peux pas dire, je peux pas voir les choses de cette façon. Mais quand mes parents m'en parlent, évidemment, c'était mieux avant. Évidemment, c'était mieux avant. Après, il faut voir les choses évoluent. On est dans des sociétés complètement différentes qui ont été bousculées, je pense, par toutes les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, etc. Donc du point de vue de mes parents, oui, c'était mieux avant. Moi, je suis bien, mais c'est vrai que j'ai un peu de mal à, vu comment les choses vont, d'un point de vue général. C'est un peu, je me dis, il y a des choses qui sont quand même assez tristes. Très très tristes même. Ouais. Je dirais pas que je suis pessimiste, mais c'est vrai que c'est un peu, ça fait bizarre. Ouais.
Ouais. Justement, ça rejoint la question d'après. Est-ce que tu penses que ce sera mieux demain?
Alors ça peut être mieux demain si on prend conscience qu'il y a des choses qui vont pas et qu'il faut qu'on les rectifie. Que ce soit au point de vue environnemental, ou c'est des questions qui sont très très présentes aujourd'hui, mais finalement que c'est bien qu'elles soient sur le devant de la scène. Après, oui, on peut être optimiste et dire que ça ira, que ce sera mieux demain si vraiment, là on écarte tout l'individualisme, qu'on se mette tous ensemble à se dire ok, là il y a des choses qui vont pas, il faut les rectifier, sinon on va droit dans le mur. Mais je pense que c'est peut-être lié à une société qui devient de plus en plus porté sur la consommation et moins sur et sur le matériel peut-être et moins sur le regard de l'être humain en fait comme il est.
Comment tu vois ton avenir?
Pour mon avenir, je dirais que finalement j'y pense pas. Au début j'y pensais beaucoup entre mes 18 et toute ma période d'études à la fac. Et au final je me suis rendu compte que il faut faire les choses comme on veut les faire, ce qu'on a envie de faire, comme on souhaite le faire. Et on se laisse porter quoi, au fur et à mesure. Et tant qu'on est en adéquation avec soi-même, avec son ressenti intérieur, bah, du coup les choses elles coulent. C'est comme ça que je le vois, que je le perçois. Parce que à force de trop penser à l'avenir, à son avenir, oui, il faut que je fasse ça à tel moment, je pense qu'il y a un moment où c'est disjoncte quoi, au niveau de soi-même.
Est-ce que tu veux des enfants?
Oui. C'est un peu, ça peut être contradictoire avec certaines notions aujourd'hui qu'on a, oui, avec les sur le comment tourne le monde actuellement. Mais au contraire, c'est symbole d'espoir au final. Faut pas se dire que parce qu'on fait pas d'enfants, les choses iront mieux, au contraire. Et donc oui, si on peut me le permettre,
C'est intéressant de voir les choses comme ça. Parce que moi, je suis en dilemme
oui.
justement de d'un côté oui, mais d'un autre côté le monde comment il est, voilà.
Ouais.
Mais effectivement, ne pas en faire, ça va pas arranger le
Oui,
monde
c'est
non
ça.
plus. Ouais.
Et puis il y a eu des luttes tout au long de la génération de nos parents et encore de nos grands-parents, et ça ne leur a pas empêché d'avoir des enfants. Et ça n'empêche pas d'avoir des nouvelles prises de conscience. Donc au contraire, faut toujours voir quand je vois que. Et quand j'étais prof, je l'ai vu, les élèves, ils sont mais d'une pertinence, d'une richesse infinie. Bon, c'est ça, on a l'impression qu'il n'y a pas de problème autour d'eux. Et du coup, ils répondent de façon tout à fait spontanée. Il y a toujours des solutions à tous les problèmes. Et au contraire, je pense qu'il faut. C'est là qu'il faut puiser. Je pense qu'il faut puiser l'espoir pour le lendemain.
Ouais, c'est vrai. Bah, tu vois, justement, tout à l'heure, on parlait des différences dans les sociétés. J'ai l'impression que dans les sociétés africaines, ils mettent énormément d'espoir et ils investissent beaucoup sur la jeunesse, contrairement à ici, où, en fait, les jeunes, on n'est pas trop.
On les prend pas au sérieux,
Voilà, quoi.
ouais. Bah c'est vrai, quand tu vois d'ailleurs en ce moment, tu sais, y a des manifestations tous les vendredis. La façon j'écoutais les infos pour écouter un petit peu ce que c'était, que ce soit les grands médias ou plutôt France Info, France Inter, tout ça, il y a quand même un sentiment où ils sont pas trop pris au sérieux. Et je me dis, mais bon, alors, il faut pas cacher qu'il y a forcément parmi eux certains qui veulent sécher les cours. Mais ça,
Classique.
faut pas croire. Il y a certains adultes, on va pas. Il y en a certains qui profitent aussi des jours de grève. Faut pas non plus.
C'est clair.
Mais je pense qu'il y a, on les prend pas assez au sérieux et je pense qu'on devrait se méfier parce que déjà c'est pas bien de, je pense, de mépriser les gens de façon générale. Et si ils prennent conscience que c'est important à leur âge, c'est juste génial et qu'il faut justement dire ok, donc eux, ils peuvent peut-être nous sortir de la merde environnementale dans laquelle on
C'est
est.
clair. Sur notre génération, on entend beaucoup, tu sais, qu'on a la bougeotte, qu'on est instable et tout ça. Est-ce que tu penses que c'est synonyme d'immaturité générale de notre génération?
Mais c'est lié peut-être à à comment la société française, du moins, elle progresse peut-être. Je dirais pas qu'on est instable, je dirais qu'on trouve, on se dit bon ben d'un point de vue professionnel, bon ben ça marche pas, je vais faire autre chose. Ça marche pas, je vais faire autre chose, ça me plaît pas, je vais tenter autre chose. On n'hésite pas à passer d'un point à l'autre en se disant bon ben je vais essayer de faire autre chose, de me débrouiller. Je pense qu'on est plus, je dirais pas qu'on est plus débrouillard que nos parents, mais on a plus tendance à se dire bon là ça marche pas, là ça me correspond pas, bon ben je vais avancer vers autre chose, vers plus. Et puis on essaye aussi beaucoup de. Cette génération, je trouve qu'elle essaye beaucoup au maximum d'avancer selon ses convictions, ses envies. Parce qu'à l'époque, c'est vrai, plutôt nos grands-parents, ils trouvaient un métier, ils le faisaient jusqu'à la fin de leur vie, et puis ils ne se posaient pas forcément les questions, est-ce que j'ai envie de le faire? On est plus peut-être cette génération qui se dit, bon ben, non, ça me correspond pas. Donc, je dirais pas forcément instable, mais au contraire, qui cherche à sans cesse trouver un idéal.
C'est quoi selon toi la plus grande force de notre génération?
Je dirais que c'est ça, ce que je viens de te dire. Le fait de toujours rebondir. Il y a un terme en ce moment, que mon conjoint dit beaucoup, c'est génération slasher. Je sais pas si tu connais. Je dirais que c'est ça, en fait, c'est notre grande force. De pouvoir toujours rebondir, toujours. On se débrouille, je trouve qu'on est quand même débrouillard au final. On arrive toujours à rebondir sur nos pattes, même si c'est pas forcément évident selon les chemins qu'on prend. Et puis surtout, j'ai l'impression que c'est une génération qui est persévérante. Je vois autour de ce que je vois autour de moi, qui persévère et qui lâche pas dans ses aspirations. Et je trouve que c'est une force finalement de pouvoir toujours se dire j'abandonne pas quoi qu'on me dise, j'abandonne pas quoi.
Si tu devais imaginer le super-héros de notre génération, si tu devais le créer, il serait comment? Aussi bien physiquement que dans ses super-pouvoirs et
Alors
tout.
c'est vrai que les super-héros, j'ai toujours eu du mal avec la notion de super-héros en elle-même, même si j'étais fan de Batman petite. Ouais, j'étais fan, je regardais le dessin animé d'ailleurs quand j'étais petite les dimanches matins. Alors, ce super-héros, déjà, il serait humble. Ça ferait du bien, je pense. Il serait humble, bienveillant. Dans le souci, pas porté sur le matériel. Et qui, vraiment, il pourrait, je sais pas moi, permettre d'avoir une égalité entre chaque personne. Aussi bien égalité sociale. Moi, ouais, je sais pas si ça existe, ça. On va l'enlever. Culturel, j'allais dire, mais non, c'est. Donc voilà, j'ai dit bienveillant, humble, dans un souci d'égalité. Je pourrais pas dire si ce sera un homme ou une femme. On est dans une période où. Mais bon, j'aimerais quand même dire que ce serait une femme au final. J'aimerais dire que ce serait une femme. Physiquement, elle serait pas du tout dans les normes qu'on a eues nous jeunes d'ailleurs. Elle serait comme, bah, physiquement, je sais pas, même un peu, peu importe. Enfin, c'est vrai que l'idéal, les Américains ont fait des super-héros très musclés, très fins, etc. Ben, ce serait une citoyenne lambda en fait, hein, pour moi. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Un super-héros qui aurait donc des super-pouvoirs qui pourrait rectifier. Vraiment, je crois, toutes les inégalités qui existent, que ce soit d'un point de vue professionnel, économique, ce serait magnifique. C'est vraiment utopiste, mais ce serait
Ouais,
magnifique.
c'est le but du super-héros.
C'est vrai, c'est ça.
La dernière question, c'est quoi ta philosophie de vie?
Je dirais que c'est de. Ben, encore plus maintenant, c'est de d'avancer dans la vie en étant au maximum dans le respect, que ce soit le respect des autres, le respect de soi-même, et d'écouter son instinct et son fort intérieur, comme on dit. Et vraiment, je crois que c'est le mot-clé, c'est le respect. Parce que quand on se respecte et qu'on respecte les autres, les choses vont beaucoup mieux. Parce que du coup, il y a moins cette notion de hiérarchique entre les gens. Moi, je suis mieux que toi, tu vois. Donc, voilà. D'avancer dans le respect des autres et de soi-même.